Je voudrais quand même vous parler un peu du Hamas. Parce que nous, on parle souvent sans vraiment dire c'est quoi le Hamas. Le Hamas, c'était le 6 octobre, 40 000 hommes en armes, extrêmement bien entraînés, extrêmement bien préparés à une guerre qu'ils ont préparée depuis des dizaines d'années contre Israël, avec des chefs qui savent exactement ce qu'ils voulaient faire. Yahya Sinwar a fait beaucoup de prison en Israël, mais il connaît parfaitement Israël, parfaitement l'hébreu, plus que vous tous, enfin beaucoup, certains d'entre vous peut-être. Et cette connaissance que l'ennemi a d'Israël et de la langue israélienne et de la culture israélienne fait qu'ils savent exactement comment nous pensons, comment nous réagissons. Et vous avez entendu parfois que dans cette guerre, on a souvent critiqué Israël, on s'est même nous autocritiqué en disant on n'a pas peut-être agi comme il fallait agir, on n'a pas compris comment il fallait faire, on a fait ce qu'on appelle en hébreu, on a commis la faute qu'on nomme ici la misperception, l'erreur d'approche. On a souvent omis de dire une chose qui est importante aussi à dire, c'est que si nous on a évolué depuis, disons, la guerre des six jours, l'ennemi a beaucoup plus évolué au prorata du temps. Et l'ennemi qui est en face de nous est un ennemi extrêmement vicieux, extrêmement rusé, qui sait tout à fait pervertir la réalité, et surtout inverser les rôles. Nous sommes en fait dans cette guerre-là, hein, qui est la vôtre aussi, parce qu'en diaspora, vous n'êtes pas sur le terrain, évidemment, et tant mieux, mais vous êtes sur un autre terrain, qui n'est pas moins important et pas moins sensible et compliqué. C'est le terrain de que j'appelle, et ensuite je vous présenterai également Thelma, qui est là en civil, mais qui est avec nous depuis des mois et des mois dans la guerre de l'information. Aujourd'hui,
il faudrait d'abord l'applaudir parce que Thelma s'est mariée il n'y a pas très longtemps. Et puis Thelma, tu permets de le dire, attend un heureux événement. Et ça, c'est les choses importantes de la vie, parce que la vie continue. Et la vie doit continuer. Et Israël continue à avancer et continue à vivre avec des jeunes, comme Thelma, qui sont l'avenir d'Israël. Une fille brillantissime qui a fait Sciences Po en France. Sciences Po, pas d'aujourd'hui, Sciences Po d'avant. Et qui a apporté, comme d'autres Françaises et Français en Israël, dans l'armée, dans les services, l'intelligence, l'amour d'Israël. Et puis un savoir-faire qui est très important pour nous en Israël. Donc je vais revenir au Hamas avec après cette petite parenthèse. Le Hamas, par exemple, a mis en place une police politique dans la bande de Gaza. À peu près 1000 personnes avec des salaires qui sont là dans la bande de Gaza depuis des années pour vérifier ce qui se passe chez les Gazaouis. Ils ne s'occupent pas d'Israël, ils ne s'occupent pas des Juifs, ils s'occupent des Arabes. Ce sont des gens qui font des dossiers comme ça, comme le faisait la Stasi à l'époque en Europe, en Allemagne de l'Est, ou la Securitate en Roumanie à l'époque. Les Gazaouis, qui sont peut-être liés au Fatah, ou à d'autres groupes, ou peut-être simplement n'aiment pas le Hamas, ont des dossiers. Les femmes dans la bande de Gaza qui sont soupçonnées, je dis bien, d'être des femmes adultères, ont d'abord un dossier, puis après elles sont assassinées. Les hommes soupçonnés ou avec des soupçons d'homosexualité ou de mauvais comportements, de mauvaises mœurs par la police du Hamas sont pendus, éliminés, émasculés aussi. La police du Hamas fait partie de la bande de Gaza. Nous sommes dans une guerre depuis le 7 octobre. Certains disent contre une armée terroriste, d'autres disent comme un État terroriste. Puisque le Hamas, vous savez, il a un ministère de la Santé qui vous donne tous les jours des chiffres qui montent comme ça de manière exponentielle tous les jours. Et le Hamas, auquel nous faisons face depuis le 7 octobre, nous défie. Il a des amis aussi. Il est devenu aujourd'hui un défi pour nous, Israël, bien au-delà de l'élément militaire stricto sensu. Le Hamas a réussi à avoir des appuis, à avoir des soutiens, On l'a vu évidemment du côté iranien. Ce soir, je ne parlerai pas de l'Iran. Non, s'il vous plaît. On ne parlera pas de l'Iran ce soir. D'autres soutiens dans le monde, également le Hamas a quelque part réussi aussi à avoir le soutien, je dirais, je parle de masse jeunes, étudiantes, américaines, françaises, qui voient le Hamas comme la cause palestinienne.
La sympathie.
Si vous voulez, le Hamas a remplacé la cause palestinienne et le Hamas joue avec cela. Dans cette guerre que nous menons depuis le 7 octobre, il y a donc la guerre sur le terrain. C'est une guerre très compliquée et très longue. Et quand les guerres sont longues, eh bien, il y a parfois des grandes victoires, parfois il y a moins de victoires, il y a des morts, il y a des blessés. Il y a aussi une fatigue de la population israélienne. Il y a une fatigue du monde extérieur qui n'aime pas les guerres longues, parce que ça fait des problèmes, les guerres longues, surtout lorsqu'on fait la guerre, nous, à des islamistes intégristes qui ont des amis à l'extérieur. Et quand on fait la guerre ici, on nous demande d'arrêter la guerre très vite. Pourquoi ? Parce que cette guerre, elle fait des remous dans les rues de Paris, de Lyon, de Stuttgart, de New York, de l'Ohio. Et donc, on nous demande d'arrêter la guerre à tout prix parce que cette guerre, elle dérange là-bas. Et vous, dans cette guerre-là, vous êtes tout d'un coup, quelque part, aux premières loges. Parce que vous êtes attaqué en tant que soutien d'Israël, que vous soyez juif ou non-juif, de gauche, de droite, religieux, aucune importance. La question dans cette guerre ici n'est pas où est l'ennemi, mais qui est l'ennemi. Et l'ennemi, il est parfois clair et net, parfois il est moins clair. Et il n'est pas toujours avec des fusils, avec des RPG, ou avec des tanks, ou avec des armes. Il a d'autres armes. Et il parle, et il s'exprime. Et il a fait depuis le 7 octobre, au-delà de tout cela, il a créé ce que moi je nomme une sorte de tsunami géant. Oui, une grande vague, mais la vague n'a pas encore atterri. Nous sommes encore dans la vague. La vague n'a pas encore atterri sur le sol. Nous sommes dans cette situation-là où on a encore 128 otages, dont des enfants, qu'on a déjà oubliés, je ne parle pas de nous, mais je parle des autres, Kfir, Ariel, 1 an maintenant, un peu plus, 4 ans et des poussières, son frère, qui parle d'eux? Des femmes, on dit des viols, on dit des choses horribles, on dit des choses que je ne veux même pas dire, des gens plus âgés, des témoignages sortent, et tout Israël, je vous le dis comme ça, tout Israël, du nord au sud, au Tefaza, dans la région autour de la bande de Gaza, ou à Tel Aviv, Jérusalem, peu importe, nous sommes tous dans une situation de traumatisme. Parce que cette guerre-là nous a pris d'une manière différente des autres guerres. J'ai connu des opérations militaires, j'ai connu d'autres guerres, vous aussi, vous souvenez, enfin, les anciens, guerre de Kippour, guerre de 6 jours, je ne pense pas qu'ici, il y en a qui étaient là, mais en tout cas, des guerres qui étaient des guerres courtes, des guerres précises, des armées contre des armées. Et là, tout d'un coup, une guerre très longue, avec des questionnements, avec des incertitudes, avec des pressions gigantesques. Aujourd'hui, alors nous parlons, pour la première fois, le procureur général de la Cour de l'Internet de justice de La Haye compare à égalité le Hamas et Israël et lance des mandats d'arrêt pour le Premier ministre, pour le ministre de la Défense, pour Sinwar, Yahya Mohamed Def et Ismaël Haniyeh. On accuse M. Netanyahu et M. Gallant de starvation, donc d'affamer la population palestinienne, d'éradiquer la population palestinienne. Alors ce sont des accusations, mais c'est écrit et ça circule. Et on est dans cette guerre-là que je nommerais la guerre dans la guerre. La guerre dans la guerre. Pour cette guerre-là, on ne peut pas la gagner ni la faire avec un tank, même avec 10 tanks, ni avec des F-35, ni avec des missiles, ni avec des formidables soldats que nous avons en Israël. Et cette guerre, elle nous fait un mal terrible parce qu'elle cherche à délégitimiser l'État d'Israël. avec un but clair, la disparition de l'État d'Israël. Nous sommes face aujourd'hui à des gens extrêmement sophistiqués, très intelligents, qui ont de l'argent, des moyens, mais qui ont surtout une détermination, une intention politique de vouloir la disparition de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Et par rapport à cela, cette guerre, et ceux qui m'ont entendu parfois parler, peut-être ont été surpris par ces termes, mais je le dis encore une fois ce soir, j'ai dit partout où je pouvais le dire, cette guerre est pour nous Israéliens et Juifs, et non-Juifs, démocrates, amoureux de la démocratie israélienne, amoureux du monde libre. Cette guerre est pour nous existentielle. Parce que si le Hamas, ce jour-là, était rentré non pas avec 4500 hommes et 3000 civils, mais avec 100 000 membres du Hamas et des associés comme ça, on n'aurait pas eu 1200 morts en quelques heures, on aurait eu 20 000 morts. Peut-être plus encore. L'intention de tuer, de détruire était là. Elle reste là. Et lorsqu'on entend et qu'ils entendent, parce qu'ils entendent dans toutes les langues, la pression qui est sur nous, sur un cessez-le-feu à tout prix, cessez-le-feu à tout prix pour Israël signifie, en un mot très simple, la capitulation d'Israël et la victoire du Hamas. Et c'est en fait la capitulation du monde libre face à l'islamisme intégriste le plus cruel. Et ces choses-là, il faut les dire clairement à un moment donné. Alors, dans les chancelleries, dans les capitales, les gens nous disent, vous savez, on pense comme vous, mais on ne peut pas le dire. Parce qu'on a la pression. On comprend ce qui se passe pour vous, mais comprenez, nous, on a des millions de gens chez nous qui font ce qu'ils appellent le bazar. Alors, si vous pouvez un petit peu finir le travail assez rapidement, même avec quelques compréhensions que nous, ça se calme, parce que on a des événements importants. Ici, c'est l'Eurovision, là, c'est les Jeux Olympiques, là, c'est d'autres choses. Il faut que les choses se calment chez vous.
Et chez nous, elles ne peuvent pas se calmer, Franck. Parce que si chez nous, elles se calment, on a un prix à payer pour ce calme. On peut accepter que le Hamas gagne ?
Non.
On peut accepter que les salafistes sortent de leur trou en faisant lever de la victoire ? Parce que c'est ce qu'ils font. Donc cette guerre est une guerre existentielle qui n'est pas terminée, loin de là. Ceux qui nous demandent combien de temps elle va prendre, impossible à dire. Il faut être ici, non pas dans un 100 mètres, comme c'était la guerre des 6 jours, mais au moins un ou deux, voire trois marathons. Garder son souffle, avoir des bouteilles d'eau, des ressources, travailler en équipe, travailler ensemble. Je vous demande, je vous supplie, amis, de regrouper les forces, de faire quelque chose qui ressemble vraiment à un combat.